chose. 88.3 FM.
Vous l'avez bien cherché.
Contestation. Répression.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Bienvenue à vous dans À bâton rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. À bâton rompu, magazine d'info tous les mardis de 19 à 20h. Les deuxièmes mardis chaque mois, nous recevons ici les amis du monde diplomatique d'Orléans pour décrypter l'édition en cours du mensuel altermondialiste et critique du libéralisme économique fondé en 1954. Pour ce mois de novembre, j'accueille avec plaisir Boris. Bonsoir Boris. Alors, vas-y, attends. Vas-y, dis-moi.
Je dis bonsoir à tout le monde.
Bah, je t'entends, mais je t'entendais pas là parce que j'ai pas ouvert le micro encore. Victor, bonsoir Victor.
Oui, bonsoir.
Mais qu'est-ce que vas-y.
Bonsoir à toutes et à tous.
Steven qui nous rejoint, bonsoir Steven.
Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous.
Allez, tu rejoins l'équipe du Monde Diplo.
Ouais, allez.
Alors,
c'est parti.
Non mais avant toute chose, Victor est jeune, vous ne le voyez pas, mais les jeunes qui disent le Monde Diplo, moi je dis bravo. Alors, tu t'y es mis il y a longtemps ou pas?
Bah ouais, ça fait un petit moment que je lis et que je suis un fidèle contributeur en achetant tous les mois le Monde Diplo. Ouais. Je vais tous les soirs, tous les mois, je vais dans ma petite
bibliothèque.
Ouais. Exactement, et je récupère le Monde Diplo.
Nickel. Bon, ouais, tu vas choisir de nous rejoindre et de parler tout à l'heure d'un article sur la manipulation, je crois.
La diffamation
politique. En ce moment, on parle que de ça. Bonsoir Henri.
Bonsoir.
Henri, pour le sommaire de cette édition, comme d'habitude.
Eh oui, ce diplôme du mois d'octobre qui, figurez-vous, est riche.
Non.
Vous ne serez pas étonné. Et donc oui, ce diplôme est riche. Et riche également, et on en parlera avec Victor et Steven, du manuel d'autodéfense intellectuelle qui vient de sortir, un hors-série du monde diplomatique qui vient de sortir, et dont la lecture est très intéressante, mais on y reviendra. Oui, ce diplôme qui se partage, comme bien souvent, entre des articles consacrés à notre vie domestique, on va dire franco-française, et puis évidemment l'international. L'international, beaucoup de choses sont... beaucoup d'événements, hein, évidemment, donc on y reviendra, on ira en Russie avec Boris, et puis au Bangladesh avec Victor notamment. Il y a aussi dans ce diplôme un article de Christophe Ventura, au Venezuela, une crise sans fin. Et oui, c'est très étonnant, ils ont fait des élections, bravo, le 28 juillet 2024 exactement, mais figurez-vous qu'ils ont plusieurs présidents, enfin ils ont au moins deux présidents qui se déclarent présidents. C'est un petit peu embêtant. Et donc, vous savez, le Venezuela, ce pays qui n'a pas toujours été bien vu, notamment par le grand voisin américain, du temps de Chavez, bien sûr, la politique de Chavez n'était pas bien vue à Washington. Mais ce sont les héritiers de Chavez qui sont là. Et donc, si on en croit un certain verdict, ce serait Nicolas Maduro qui serait reconduit à la tête de l'État, donc à la suite de cette présidentielle, mais ses adversaires de droite, mais aussi certains de gauche, contestent ce scrutin. Du coup, c'est une nébuleuse assez impressionnante, puisque certains pays comme le Brésil et la Colombie remettent en cause ce verdict, d'autres pays reconnaissent le verdict, donc l'authentifient, mais... on va dire que les observateurs les plus objectifs, si on puisse tenter à en trouver, disent que c'est très difficile d'authentifier les résultats. Et donc il faudrait éventuellement, et là beaucoup de pays se rejoignent à cette sentence-là en quelque sorte, c'est qu'il faudrait refaire des élections, et il faudrait qu'au Venezuela, il soit accepté que des observateurs neutres et internationaux viennent vérifier si tout se passe bien. Donc en attendant, voilà, Alors vous me direz, est-ce qu'il vaut mieux avoir deux présidents que pas de Premier ministre du tout? Je ne sais pas.
Ça leur est arrivé déjà.
Ça se défend.
Ça se défend.
Et d'ailleurs, pour l'histoire du Premier ministre, eh bien, il faut. Je vous conseille la lecture du livre, de l'article d'André Bellon, oui. La France malade de ses institutions. Mmh. Un article extrêmement intéressant. Vous voyez dans quelle situation on est. C'est-à-dire que normalement, la souveraineté appartient au peuple. Nous avons voté, notamment pour les européennes, puis ensuite pour les législatives. Et figurez-vous que c'est quand même le cinquième parti à l'issue des urnes, le parti donc de M. Barnier, qui est arrivé en cinquième position et qui gouverne par l'intermédiaire de Michel Barnier. Oui. Donc c'est assez étonnant. Et pour en arriver là, donc il a fallu quand même 51 jours au président Macron pour désigner quelqu'un. Alors entre les candidats dont il ne voulait pas, ceux qui hésitaient à venir, et ceux qui ont été à la limite un peu sabordés par leur propre camp, comme Cazeneuve pour la gauche, donc voilà, on se retrouve avec un verdict des urnes, là aussi, complètement, en quelque sorte, oublié. On gouverne, tant bien que mal, on fait avec, c'est assez curieux. On se demande pourquoi on est allé voter, alors qu'il y a eu une grande participation des électeurs et pour ces législatives, et que donc du coup on ne tient pas compte de l'avis des électeurs. Surtout que ces élections, si on en arrivait là, cette dissolution notamment, eh bien c'était à la suite notamment du gouvernement de Madame Borne, qui était quand même une spécialiste du 49-3, c'est-à-dire qu'on gouverne par la force, on fait passer si l'Assemblée ne vote pas les réformes et les lois proposées, on envoie un coup de 49-3, et on se retrouve donc avec une loi qui va passer alors qu'elle ne serait pas passée devant les élus. Et donc, normalement, ce 49-3, nous dit André Bellon, c'est un outil pour gouverner qu'on doit utiliser exceptionnellement, mais c'était devenu, du temps de Mme Borne, un mode de gouvernement.
Je ne me rappelle plus du nombre, mais c'est un truc assez effarant pour une démocratie comme la France, effectivement, oui. Le 49-3.
Il y avait... Je me rappelle. Je disais, ça me rappelle, moi, à l'époque où Valls avait fait passer aussi des réformes, réforme de la loi El Khomri à coup de 49-3. Et il y avait dans ma résidence, nous on habitait au 3 rue Kuhlmann, il y avait quelqu'un qui avait tagué 49 devant, donc ça faisait 49-3 armes du roi.
T'en as une vie. Il en a une vie.
Ah ouais, mais quel fin observateur de notre vie politique.
Mais bien sûr.
Et donc voilà, donc on se retrouve quand même avec un gouvernement un peu lunaire, on va dire, et qui donc est-ce qu'on va toucher aux retraites ou pas? On en a beaucoup parlé avant les législatives, mais finalement on a l'impression.
Il y a d'abord les immigrés.
Il y a quand même beaucoup d'immigrés, et on a quand même un ministre de l'Intérieur qui fait que Monsieur Moussa, c'est Moussa, Monsieur Moussa Darmanin, c'est son deuxième prénom, apparaît comme un enfant de cœur, du coup. Et pourtant, quand on voit sa loi sur l'immigration, d'ailleurs, dans son article, André Bellon en parle, il dit, donc on se retrouve avec beaucoup de textes qui sont passés grâce au 49-3, avec quand même une loi sur les retraites repoussée par 70% des Français. On s'en fout complètement. Et on se retrouve avec une loi immigration qui ne serait jamais passée et qui avait quand même une large opposition des députés. Quand même, il y a beaucoup de macronistes qui ont quitté le gouvernement ou les bancs de l'Assemblée sous cette bannière-là pour protester contre cette loi. Et donc, quand même, Moussa Darmanin donc, a réussi à faire passer son texte. Donc ça, c'est nos petites affaires, on va dire, domestiques. Plusieurs articles aussi qui est extrêmement intéressant, même s'ils ne sont pas complètement politiques, quoique j'ai beaucoup aimé un article qui s'appelle « Le livre marchandise, un danger écologique » de Claire Lecoeuvre. Et donc effectivement, on apprend que on en avait un peu entendu parler, mais que finalement, il y a une offre pléthorique et trop importante de sorties. Il y a 110 titres qui ont été publiés, on a les chiffres de 2022, 110 000 titres qui ont été publiés en 2022. Au point que début 2024, des libraires français et belges ont proposé de faire une grève un peu singulière, c'est la trêve des nouveautés. Il y a trop de nouveautés, ce qui fait que, comme le monde de l'édition a été quand même bien rassemblé autour de quelques structures très importantes comme Hachette, eh bien les 12 premières maisons d'édition en France représentent donc 87% des sorties, et puis les autres, ce sont des petits éditeurs qui essaient de survivre là-dedans. Donc il y a une guerre farouche, on peut l'imaginer, il y a tellement de titres qui sortent, les livres sont exposés, une, deux, trois semaines, et puis d'autres livres arrivent, il faut faire la place à ces nouveaux, et donc finalement il y a beaucoup de livres, et peut-être parfois malheureusement des bons, qui n'arrivent pas à trouver leur lecteur, puisqu'ils ne restent pas très longtemps à l'affiche en quelque sorte. Et donc au bout de la chaîne, on se retrouve finalement avec beaucoup de bouquins qui ne sont pas vendus et qui finissent au pilon, qui sont recyclés en papier hygiénique ou en boîte de pizza, nous dit Claire Lecoeuvre, et ça représente pour l'année 2022, 25 000 tonnes de déchets.
Je ne savais pas, je l'ai appris dans l'article.
Ça serait impressionnant, quoi. Et donc, alors, il y a une petite évolution, on va dire, un peu positive, qui voit le jour dernièrement, c'est que les grands groupes ont commencé à réaliser qu'ils devaient faire des efforts au niveau de leur bilan carbone. Et donc, on le sait très bien que le papier, ça consomme beaucoup de quantité d'eau et d'énergie. Et donc, on se retrouve avec un mode de gestion des forêts qui devrait être plus pertinent. Et souvent, on fait venir du papier, non pas d'Europe, mais du Brésil ou d'Indonésie, où on plante des arbres qui vont pousser rapidement. Et tout ça, c'est pas très, 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 très respectueux de la biodiversité. Et ça, et également au niveau de notre économie, on va dire, franco-française, eh bien, les papeteries françaises ont abandonné peu à peu le papier graphique pour se tourner vers les cartons d'emballage et le développement des sites tels que Amazon et autres, puisqu'il faut bien emballer les colis. Et donc, cet article de Claire Lecoeuvre est très intéressant, c'est-à-dire que elle explique que il faut tellement vendre, comme je le disais à l'instant, et bien qu'on se retrouve avec beaucoup de livres qui passent à la trappe et qui ne peut pas évidemment rencontrer leur lectorat. Dans ce diplôme, je ne vais pas citer tous les articles. Il y a un article, alors là, au niveau de l'international, qui est très intéressant, de Fabien Scheder, trois scénarios pour un attentat. Là, il fait allusion aux destructions en septembre 2022 des gazoducs Nord Stream. Mais peut-être que, je ne sais pas, Boris en parlera un peu. Figurez-vous qu'il y a pourtant plein d'enquêteurs, y compris la CIA, qui enquêtent là-dessus. Ben, on n'arrive pas à savoir qui les a fait sauter. Ou alors, nous dit Fabien Scheder, peut-être que on a un peu une idée, mais on n'a pas forcément envie de la dire.
Je pense vraiment ça.
Mais même à ça, on a enquêté, donc qu'est-ce que tu penses?
Je pense qu'ils savent, mais qu'ils ne vont pas le dire. Mais bon, après, je ne veux pas paraître pour un
complotiste.
On lutte contre ça ici, mais...
C'est intéressant, je crois qu'il il faut faire confiance aux réalisateurs américains, et c'est un bon scénario pour faire un bon film. Alors, voilà, ils pourront plancher sur trois hypothèses qui nous est présentée par Fabien Scheder. Soit c'est les Russes, mais on aimerait bien que ce soit eux. Mais il n'y a aucune indication précise et vraiment fiable qui permette d'impliquer Moscou.
Il n'y a pas d'intérêt direct pour eux sur cette affaire.
Ils ont mis du blé là-dedans. C'est un gazoduc qui a coûté 10 milliards d'euros quand même. Et donc, alors ça peut être ou les USA et la Norvège. Selon un journaliste, Seymour Hersh, qui dit que, voilà, alors la Norvège, faisant peut-être la sale besogne, mettant les mains dans le cambouis pour les USA, c'est vrai que les USA, ça leur plaît pas quand même que Moscou continue à livrer du gaz, notamment à l'Allemagne. Et puis, ça pourrait être aussi un groupe pro-ukrainien. Alors là, c'est là que ça fait peut-être un bon film, qui aurait loué un voilier, l'Andromeda, pour se rendre sur place et dynamiter le gazoduc. Voilà, donc tout le monde enquête, comme on le disait à l'instant, y compris la CIA bien sûr, mais aucune information ne filtre. Et comme tu le disais, effectivement, on doit savoir deux, trois choses, mais on ne veut pas le dire parce que finalement, ce n'est pas forcément les bons coupables.
Non.
Voilà.
C'est ça le truc.
c'est ça qui crée un problème. Alors, voilà, ça rentre peut-être dans ce que Boris évoquera tout à l'heure au niveau de Moscou. Ouais.
Il faut toujours chercher à qui le crime profite.
Mais bien sûr.
Mais bon, tu crois qu'il profite à plein de gens, là.
Voilà, en l'occurrence. Ouais. En l'occurrence. Il y a peut-être plusieurs coupables.
Ouais. Tu as fini ou...
Oui, je voulais dire juste un mot de l'article de Thomas Frank sur Kamala Harris ou l'illusion du changement. Parce que Kamala Harris, elle se présente, elle a remplacé Joe Biden bien fatigué. Ce qui a bien dérangé, on en a parlé, je crois, le mois passé, Donald Trump qui se préparait donc à attaquer le vieillard Biden sous tous les angles, mais malheureusement le vieillard maintenant c'est lui, et donc il faut qu'il change de point. Il y a eu un débat où elle aurait pris, alors je sais pas comment ils font d'ailleurs pour savoir qui a gagné.
Je l'ai regardé en direct.
Elle aurait pris le dessus.
Elle l'a ratatiné, clairement. Elle l'a ratatiné.
D'accord. Pro-démocrates qui ont.
Bon, il y a forcément de ça, mais je l'ai regardé en direct et c'est vrai qu'elle est. Moi, je pensais qu'elle n'était pas autant préparée que ça, mais si, elle était. Voilà.
Alors, dans son article, Thomas Frank dit qu'effectivement, elle a fait une bonne prestation pour son camp. Mmh. Et donc, par contre, elle est moins à l'aise, beaucoup moins à l'aise sur les questions économiques.
Tout à fait.
Donc, quand on en arrive à ces questions-là, qui l'embarrassent un peu plus, elle se range derrière le bilan de Biden, qui, effectivement, a permis aux marchés boursiers de battre des records et aux investisseurs de retrouver le sourire. Si elle gagne en novembre, faut pas s'attendre à ce que les choses évoluent beaucoup dans son camp. Et peut-être qu'il faut espérer pour le moment, et ça nous suffira, qu'elle batte l'autre clown.
Mais c'est clair que c'est pas Bernie Sanders, Kamala Harris.
Ben non, c'est pas Bernie Sanders.
Ah non, non.
En tout cas, clairement, les chiffres du chômage ont été annoncés la semaine dernière. Ils ont fait un bon taf. Elle a fait un bon boulot avec Joe Biden. Les chiffres sont plutôt pas mal, mais ce sont les États-Unis. Elle va revenir à une politique libérale. C'est impossible.
Je me rappelle Daniel Mermet qui avait fait une émission sur la Bible Belt.
Oui.
Il se rendait compte qu'entre démocrates et républicains. Ouais. Ben, la différence, elle était peanuts.
Ben, elle était peanuts, mais oui, parce
que... Oui, parce que même le lobby des armes, elle ne les attaque pas. Elle loue l'armée américaine, qui est la première armée du monde. C'est vrai qu'après... c'est vrai que Trump, il en fait tellement qu'on le remarque, ça c'est sûr, d'une manière ou d'une autre. À la sortie, il n'y a pas des grosses différences, oui.
Il y a... je pense qu'elle va gagner, je pense vraiment... Il y a un copain qui vit aux États-Unis qui me dit qu'elle a gagné cette. Trois semaines, elle a fait une interview où elle a dit qu'elle avait des armes chez elle.
Oui.
Et elle s'est pas arrêtée là. Elle a dit parce que le premier qui rentre chez moi, je la bats, quoi. Je vais la battre. Et donc, si elle a dit ça.
Enfin, faut qu'elle fasse attention. Si c'est un noir, c'est peut-être quelqu'un de sa famille. Hein,
mais... mais elle est peut-être pas noire.
Trump a dit qu'elle n'était pas vraiment noire, comme si elle avait été repeinte.
Elle est devenue noire.
Voilà. Elle est devenue noire, voilà.
On m'a dit qu'elle était indienne. On m'a dit qu'elle était indienne et puis tout d'un coup, elle est devenue noire. J'adore ce mec. Ouais. Non, mais vraiment très bel article à lire pour.
Oui, un article de Thomas Frank.
Ouais, pour voir la situation aux États-Unis qui ne va vraiment pas beaucoup changer. Le seul truc où. Ouais, c'est ce que tu disais. elle va nous empêcher d'avoir 4 ans. Pendant 4 ans, c'est fou.
Oui, et puis tout le monde espère que donc 4 ans après, en 2028, oui. il sera au golf.
Mais non, il sera en prison. Il sera en prison. Ouais.
Ou en prison. Il y a peut-être des golfs dans les prisons.
Oui, bah, ils vont peut-être l'installer, on ne sait jamais. Ils vont bien installer, on ne sait jamais. Merci pour le sommaire de cette...
Voilà, il y a plein d'autres articles, mais effectivement, je ne vais pas tous les citer.
Bah, il faut lire, absolument.
Allez,
on va passer un peu de musique, et ensuite, on passe à la situation en Ukraine... Et
à Moscou.
Oui, ça parle beaucoup plus de Moscou. Mais après cette incursion en Ukraine. La musique que tu nous as ramenée aujourd'hui.
Lojo.
Oui, c'est un
groupe. Un groupe angevin.
J'adore.
Ils ont des textes. C'est comme une parenthèse enchantée, leur musique. C'est bien. C'est.
La bande de Denis Péan est le chanteur fondateur de ce groupe. Ils sont angevins, comme tu disais. L'album est sorti en septembre dernier. Ben voilà, écoutez, c'est de la trance tribale, c'est avec une trajectoire unique pour ce groupe. C'est à Bâton Rompu jusqu'à 20h. Restez avec nous.
S'il ne reste rien à dire, il reste deux oranges au jardin des délices, ce verre jamais bu. S'il ne reste rien à dire, il reste deux oranges au jardin des délices, ce mot jamais dit. Demain sera l'immense par des grâces, des uppercuts.
Amasanjo, Amanjo, Mandiego.
J'ai cru rater, mais cette mauvaise pierre fut un beau silex, un joyau sirim, sirim.
Amasanjo, Amanjo, Mandiego.
Poussière du Sahel que viennent jeter des œufs sur l'Europe. Les frontières se déchiquettent, des messages arrivent télépathes.
Agedalu amandie, amanjo afandiele. Amasanjo amanjo mandiego. Amasanjo amanjo mandiego.
S'il ne reste rien à dire, il reste deux oranges au jardin du délice, ce verre jamais bu, le ciel se couvre d'îles.
Agedalu amandie, amanjo afandiere. Amasanjo amanjo mandiego. Amasanjo amanjo mandiego.
Amasanjo, amanjo, mandiego. Amasanjo, amanjo, mandiego.
Le morceau s'appelle Mandiego et il est sur le dernier album de Lojo, dont j'oublie le titre à l'instant. Tu l'as ou pas ?
Les feuilles fauves.
Les feuilles fauves, merci. À bâton rompu, la suite.
À bâton rompu, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
Oui. C'est ça, c'est ici.
C'est nouveau, ça.
Oui, Boris. En août dernier, les troupes ukrainiennes ont tenté une incursion sur le territoire russe, dans la région de Koursk, avec, dit-on, l'aide de pays occidentaux. Tiens donc. Ah. Cette initiative de Kiev va compliquer les négociations, forcément, d'éventuelles...
L'aide, c'était le soutien américain.
Mais oui, mais c'est ce qu'on dit. Voilà. Mais il y a, comme tout à l'heure, il n'y a pas toujours des preuves.
Non, non.
Mais donc voilà. Et juste, en tout cas, le titre de l'article, c'est Moscou va refuser d'éventuelles négociations.
Voilà, c'est voilà. En gros, c'est ça. Mais bon, Moscou fixe ses conditions. On va le voir. Hein, comme dit le sous-titre. Hein, bon, d'abord, pourquoi Moscou ne négocie pas? Bon, c'est un article de Arnaud Dubien qui est responsable de l'Observatoire franco-russe. Hein. Y a un autre petit titre qui dit « Après la percée ukrainienne en Russie », voilà,
oui.
Ce qu'on disait. Bon, soutien des Américains, oralement, c'est sûr, militairement, non.
Ben.
Voilà. Hein. Comme dit le sous-titre, l'article commence par relater l'incursion ukrainienne en Russie dans la région de Koursk. Koursk est tristement célèbre, c'est la plus grande bataille de chars qui a eu au monde entre les nazis et l'Union soviétique. Il s'agit d'un affront, n'empêche, pour Poutine. Hein, et pourtant, cela semble surtout être du symbole, car en l'état actuel, la guerre russo-ukrainienne ne change pas. L'engrignotage à l'est dans le Donbass par les Russes, résistance de l'armée ukrainienne où elle peut. Hein. Le Kremlin semble assurer, à plus ou moins long terme, de gagner et, malgré le ressenti auprès des habitants de cette incursion ukrainienne, bon, ils ont quand même évacué quelques milliers de gens, quelques dizaines de milliers de gens, hein, parce que bon, c'est quand même une claque pour Poutine. Hein. Poutine considère que c'est un épiphénomène.
Oui.
Quant à l'élection américaine, bon ben, Moscou semble ne peut se soucier que ce soit Trump ou pas Trump, pour l'instant. Et pourtant, un nombre de
personnes... Il a même dit qu'il était pour Kamala Harris, mais c'est un jeu,
mais
Poutine, c'est un jeu.
C'est Trump qui joue son petit jeu.
Mais
quoi.
Évidemment, on a appris, là, il y a quoi, il y a deux heures, que c'est le New York Times, il me semble, qui le dévoile. Trump n'a pas arrêté d'appeler Poutine. Depuis qu'il est même pas au pouvoir, donc voilà, les liens sont restés quoi.
Trump a même dit que s'il était élu, la guerre s'arrêterait dans la journée.
Oui, c'est ce qu'il a dit.
Voilà. Bon, on ne sait pas comment il va faire, mais à moins d'utiliser l'arme nucléaire, ouais, on ne sait pas. Hein, pourtant, nombre de personnalités russes semblent douter de cette victoire.
Oui, bien sûr.
De plus en plus. Hein, le scepticisme ambiant s'accroît.
Ouais.
Sauf que, bon, la Russie a un dictateur à sa tête, et avec les dictateurs, de toute façon, on ne peut pas causer. Hein. Mais ces voix-là ne changent pas la vision de
Moscou. On va revenir à une émission précédente. On discute avec qui si c'est pas avec Poutine?
Eh ben, il faut attendre que les Russes mettent Poutine hors champ.
Parce que t'y crois ça? T'y crois vraiment?
Ben c'est déjà produit.
Ah, il y a des risques de tentative d'assassinat.
Oui, il paraît. Mais
non, tentative d'assassinat, non. Il faut savoir que Poutine a 12 bureaux dans 12 endroits différents.
Moi,
et on ne sait jamais où il est.
Bah oui, j'imagine.
Jamais, jamais. C'est 12 bureaux strictement identiques et on ne sait jamais où Poutine est. Et il a une garde personnelle, on pourrait dire une armée personnelle, de plusieurs dizaines de milliers d'agents qui l'entourent.
Et puis il a été d'une rare efficacité quand le responsable de Wagner a voulu marcher sur ses plates-bandes. J'ai oublié son nom.
Prigogine.
Et puis Navalny. Tous ces gens-là, dès qu'ils sont un peu opposants, un peu marquants, ils sont éliminés.
J'y crois à peine quoi qu'il pouvait y avoir un coup d'État. Le gars il fait goûter sa bouffe. Il met des puces sur ses chiens. Je sais pas si vous voulez appeler ça. Mais voilà. Donc
mais des puces sur les chiens, c'est normal ça.
Ah oui, c'est vrai.
Pour savoir où ils sont.
Voilà, pour ces modernes, bref. Mais, en fait, il est.
Non, c'est un mégalomane, c'est un dictateur.
Ouais.
De pouvoir divin pratiquement. Hein. Il fricote avec l'église russe, l'église orthodoxe. Et, voilà, et il n'écoute que lui. Bon, il s'arrange pour que tout le monde pense comme lui.
Un dieu à 12 bureaux quand même, donc s'il a autant de bureaux, c'est qu'il craint un peu quand même.
Bien sûr, mais enfin bon, ça se passe toujours comme
tous
ça.
Tous les dictateurs craignent.
Ouais, en Union soviétique, c'était déjà ça. Et, oui.
De toute façon, ça ne change pas la vision de M. Poutine et du Kremlin. Poutine, on en parle, Poutine n'est pas contre une négociation, mais à ses conditions. Alors, je les cite, elles sont dans l'article. Retrait des troupes ukrainiennes des régions Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporijja. Bon, déjà, les trois quarts sont occupés par les Russes. Bon, ça ne devrait pas poser de problème. Ne pas adhérer à l'OTAN. Renonciation à l'arme nucléaire. Bon, ça, c'est un vœu pieux. Par contre, démilitarisation et dénazification de l'Ukraine.
Oui, bien sûr. Hein, c'est comme
il
ne
faut
c'était
pas
fait,
oublier que quand il a lancé son opération sur l'Ukraine, il considérait que l'Ukraine était nazie. Ça a été le prétexte du début de l'opération militaire et qui maintenant a conduit à une guerre. Bon, on ne sait pas comment pourront se faire des négociations avec un tel catalogue de À Kazan va s'ouvrir fin octobre le sommet des BRICS. BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Bon, on rappelle quand même que la Chine considère avoir trois ennemis, hein, les USA, les Indes et la Russie. Il ne faut jamais l'oublier, même si elle semble bien copain avec la Russie, les échanges pour l'instant militaires sont peanuts. Hein, quelques drones, juste pour dire que, bon, on n'est pas forcément pour l'Occident, mais on n'est surtout pas non plus pour la Russie.
Bah, hein. C'est son concurrent régional le plus direct, en fait.
Voilà, en fait, c'est ça. En plus, et puis ne pas oublier aussi que dans ce BRICS, la Chine et les Indes sont des ennemis. Hein. Il y a toujours des problèmes frontaliers. Il y a récemment eu encore des tirs entre soldats chinois et soldats hindous. Hein. Bon, on ne sait pas ce que ça va donner. Hein. Bon. Moscou refuse de rendre d'une part la Crimée, annexée en 2014, et les portions des régions Donetsk et Lugansk sous contrôle russe, dites République populaire, ce qui va contre la position de la Chine et des Indes. Hein. Ils sont contre cette annexion. Le Kremlin considère les USA comme seul interlocuteur. Bon, c'est bien pour nous, parce que l'Europe n'existe pas pour Poutine. Par contre, le problème, c'est que l'Ukraine plus l'Union européenne plus les USA n'ont aucune confiance en la Russie. Et réciproquement. Hein. Ça, c'est dit. En clair, l'opération spéciale dite de dénazification, lancée par Poutine le 24 février 2022, est un échec. Hein. La première armée conventionnelle d'Europe et la deuxième ex aequo du monde n'a pas été capable de réduire à néant l'armée ukrainienne qui est peanuts. Hein. Il faut savoir que l'armée officiellement, hein, au début de la campagne ukrainienne, l'armée russe, c'est 1 140 000 combattants et 2 millions de réservistes. L'Ukraine, on n'a pas de chiffres, donc, mais je pense que par rapport à l'écart de population, hein, 140 millions d'habitants pour la Russie, pas tout à fait 40 millions pour l'Ukraine, hein, il y a un rapport de 3,5 hein, entre les deux. Hein, ce qui fait que ça peut expliquer aussi que la Russie, pour l'instant, semble être dans de bonnes voies. Cette opération spéciale s'est transformée en guerre classique. Et si depuis quelques mois, l'armée russe progresse lentement dans l'Est, hein, on a une large campagne de recrutement avec des soldes inédites pour le pays. Bon, on a vu qu'on a parlé de Wagner. Hein, ils avaient utilisé les prisonniers politiques. Ils ont fait venir des mercenaires du Népal, de Thaïlande, etc., payés grassement, hein, qui se sont rendus compte qu'ils étaient envoyés en première ligne. Hein, donc les Russes aussi ont du mal à recruter. Hein. On considère qu'il faudrait en gros 500 000 nouveaux combattants pour mettre à mal l'armée ukrainienne, qui résiste quand même fermement. Voilà, c'est un problème qui se pose. Hein. Il faut savoir aussi qu'il y a de plus en plus de Russes jeunes qui se sauvent, Roumanie, en Pologne, etc. Il y a de plus en plus de soldats ukrainiens qui désertent.
Oui, aussi,
il faut le savoir aussi, hein, parce qu'en Ukraine, bon, il y a eu une journaliste qui a rencontré des soldats et qui s'est rendu compte que les soldats en ont marre parce que ben, c'est toujours les mêmes qui sont au combat. Et qu'il y a une élite qui profite de la vie courante et qui ne participe pas au combat.
Il y a eu beaucoup d'enquêtes sur ça, sur la corruption en Ukraine, voilà. Justement, où des gens bien placés faisaient fuir, éviter à leurs enfants de partir à la guerre. Ouais, il y a eu ça, oui.
Au début, il faut se rappeler qu'en 14-18, en France, c'était pareil. Hein.
Ah bon?
Oui. On a vidé les campagnes. Il suffit de voir les monuments aux morts pour voir les petits villages, le nombre de morts. Et puis vous allez dans les villes et le monument aux morts, il n'y a pas plus de morts. Donc il y avait aussi ce sentiment qui voulait que on fasse bénéficier à certaines classes des avantages, ce que les Ukrainiens connaissent maintenant. Et c'est pour ça que sur le front, ils ont du mal à recruter. Hein, les Ukrainiens, ils font des rafles dans les rues. Hein. Ils demandent aux gens d'un certain âge, de 18 à 60 ans, il faut savoir jusqu'à 60 ans, s'ils ont une bonne raison de ne pas être sur le front. Et donc, ils les envoient manu militari sur le front.
Mais il y a eu des endroits où c'était vraiment la boucherie, quoi. Et puis, alors, actuellement, les guerres sont télévisées. Ben, ces jeunes-là, ils voient ce qui se passe, quoi. Ils n'ont pas envie, moi, le premier, quoi.
Mais, bah oui.
Mais en Russie, ça pose un vrai problème social également, où il y a des mères de famille, je pense. Il y a plusieurs associations de mamans de famille que Poutine reçoit. Hein, il a toujours le petit petits trucs tendres pour hein, lui qui est tellement si froid et sec, qui embrasse des mamans, qui viennent dire voilà, on n'a pas envie que nos enfants ils retournent. Oui. Quoi.
Bah, c'est logique. Hein.
Aller mourir pour quoi, quoi pour,
ça se comprend. Pourquoi pour un une esprit, guerre injustifiée de toute façon. Mais bon, on ne sait pas ce qui se passe en Russie. Hein, parce qu'il y a un blackout sur l'information.
Bien
on
ne
sait pas du tout. Autant les journalistes peuvent se promener et aller voir ce qui se passe en Ukraine. Mmh. Rien ne se passe en Russie. Mmh. Et ils sont toujours suivis par des gardes à Poutine.
Ben oui.
Alors c'est vrai que le complexe militaro-industriel russe fonctionne à plein.
Ben bien sûr,
pour l'instant, l'industrie civile apparemment ne suit pas. On se demande, est-ce qu'avec les sanctions, quand est-ce que ça va casser ?
Les sanctions. Moi, je me rappelle d'un
c'est évoqué d'ailleurs dans le manuel dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Est-ce que sur l'efficacité des sanctions, c'est pas si efficace que ça, au moins dans un premier temps.
Les Ukrainiens ont créé un labo et ils analysent les missiles russes et tout l'armement russe et ils se rendent compte qu'il y a plein d'éléments qui sont normalement sous sanctions et qui sont quand même utilisés dans le complexe militaro.
Vous vous rappelez en France d'un certain monsieur Le Maire, ministre des Finances de son État, de l'économie, qui était au tout début de la guerre venu sur une chaîne de télévision en continu qui disait « Nous allons réduire l'économie russe à zéro ». Ben c'est bien mon gars. Mais c'est bien mon gars.
Pour le moins, l'effet n'est pas immédiat.
Non, on le voit pas trop.
Non, la Russie, bon, c'est un géant diplomatique et militaire, mais c'est un nain économique. Hein. La Russie ne vit que par ses ressources minérales et énergétiques. Hein. C'est tout, il faut le savoir. Ils n'ont pas d'industrie. Ils sont au PIB de l'Espagne.
Oui, oui.
Hein.
Ben oui.
Par contre, c'est vrai qu'ils ont 16 000 ogives nucléaires, et ce qui fait que ben, c'est encore un acteur prépondérant sur...
Et ils continuent à avoir de l'argent, je ne sais pas d'où ça vient. Enfin,
c'est ça. Même maintenant, les soldes des nouveaux militaires sont hors de proportion avec ce qu'elles étaient avant, parce qu'ils ont du mal à recruter. Hein. Poutine, de toute façon, c'est un nouveau tsar. Hein, et pour l'auteur, il a peur d'être pris pour Khrouchtchev. Hein, c'est dit dans l'article.
Hein. Ah, c'est le pire.
Voilà, Khrouchtchev, il y a eu l'affaire de Cuba. Bon, Cuba, c'est quoi hein, Khrouchtchev décide avec Fidel Castro d'installer des missiles sur l'île de Cuba en 62. Sauf que les Américains s'en rendent compte. Alors bon, il y a eu plein de choses qui ont été dites. Il y a une négociation qui a été faite. En fait, c'est Khrouchtchev qui a gagné parce que les missiles n'étaient pas encore installés à Cuba. Et par contre, les Américains ont retiré, désarmé tous les missiles qu'ils avaient installés en Turquie.
En Turquie, tout
donc,
à fait.
Donc en fait, Khrouchtchev a gagné. Et... sauf que il a perdu la face. En Russie, il a perdu la face et c'est pour ça qu'il s'est fait renverser plus
tard. On en revient aux manipulations de l'histoire.
Voilà. Et Poutine a peur de ça.
Oui, bien sûr.
Il a l'exemple de Khrouchtchev et il a peur de ça.
Khrouchtchev, c'est le président soviétique qui est le moins bien vu. Enfin, Staline revient là en ce moment. Même chez les jeunes. Mais Khrouchtchev, c'est pour les Russes, c'est pas un très grand président.
Mais il y avait, je me rappelle plus, je crois que c'était une fois sur Arte comme ça, ils avaient interrogé des personnes dans la rue pour savoir ce qu'ils pensaient de Staline. Et à chaque fois, ce qui sortait, c'était un grand dirigeant, il a mis notre pays sur le devant de la scène mondiale, etc. Et, tout. Et à un moment, ils interrogeaient un petit jeune comme ça, et lui demandaient mais vous trouvez ça pas ça bizarre de vénérer un dictateur ? Puis il a regardé, il fait, vous êtes française, vous pensez quoi de Napoléon ?
Mais bien sûr, évidemment. Bah oui, mais...
bah, je voulais rajouter quelque chose qui n'est pas dans l'article, et ça m'étonne parce que personne n'en parle. C'est le blé.
Oui.
Le blé
ukrainien.
N'oublions pas que si l'Allemagne nazie a attaqué l'Union soviétique, c'était essentiellement pour rafler le grenier à blé de l'Ukraine. Et Poutine, quand il a commencé la campagne, il faut savoir que avant la guerre, sur les trois années précédentes, il y avait eu deux années de disette en Russie.
En Russie. Oui.
Et en ce moment, en Chine, les récoltes sont catastrophiques et la sécurité alimentaire joue peut-être un grand rôle. Oui. Dans cette action.
Mais il y avait une bonne récolte en Ukraine cette année-là, mais ils ont dû prendre tout le blé qu'ils ont trouvé, les Russes, dans la partie qu'ils ont occupé,
les terres à blé sont plus centre et ouest.
Ouais, bon, donc, très bien.
Mais bon, voilà, je pense que le blé, c'est une piste à creuser, parce que c'est quand même... La sécurité alimentaire, maintenant, l'OMS le dit, elle est en danger dans le monde, avec les phénomènes climatiques... et ce serait peut-être quelque chose à voir parce que les Russes aussi, il faut nourrir le peuple et un jour les réserves énergétiques vont s'épuiser. Voilà.
Merci à toi, Boris. Pourquoi Moscou ne négocie pas un article de Arnaud Dubien à dire dans Le Monde diplomatique de ce mois d'octobre.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Nous allons partir immédiatement, tout de suite,
Bangladesh.
Vers le Bangladesh. C'est un des seuls pays récemment où des étudiants arrivent à faire tomber un gouvernement.
Et oui, effectivement. Et donc cet article Bangladesh aux racines du soulèvement par Nafia Hassan s'ouvre sur fin de juin 2024. Des centaines de milliers d'étudiants manifestent à Dhaka contre un dispositif de recrutement des fonctionnaires. Et cette manifestation a pris tellement d'ampleur qu'elle a amené à la chute du Premier ministre Sheikh Hasina.
Première ministre.
Hein, de la Première ministre.
Oui, Sheikh Hasina, c'est une femme. D'ailleurs, c'est assez... c'était pas courant dans... Elle vient d'une lignée... Bon, vas-y, on a
Oui, oui, oui. Elle était fille d'un libérateur, etc.
Elle était première ministre pendant deux ou trois fois. Vas-y.
Écoute, je savais pas que c'était une femme, mais je pensais que Sheikh, c'était un prénom masculin, mais je me suis trompé. Donc, il part en exil le 5 août 2024. Ça déclenche une liesse populaire. Il y a des manifestations qui éclatent partout dans la... Enfin, voilà, des manifestations de joie qui éclatent partout dans les villes. Mmh. Et une éruption dans le palais résident, dans la résidence officielle, du coup, d'Hasina. Mmh. Et en fait, tout ça conclut ce qu'on a appelé le juillet sanglant. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse période de manifestation et de répression de la part de Sheikh Hasina, qui est au pouvoir depuis 2009, je crois.
Oui.
Mais en fait, d'où est partie cette question-là? En fait, c'était quoi l'objet de la contestation? Eh bien, l'objet de la contestation, c'était une loi qui promettait 30% de part de fonctionnaires au sein aux anciens combattants de la libération et à leurs enfants. Donc voilà. En 2010, l'idée était d'étendre ce dispositif aussi aux petits-enfants de combattants de la libération. Donc vous imaginez, en France, si jamais on mettait en sorte qu'il y ait 30% des fonctionnaires qui soient d'anciens résistants et leurs enfants et leurs petits-enfants. Enfin, ça paraîtrait complètement délirant, quoi. Et du coup, ça n'a pas manqué d'attiser la colère des Bengalais, qui du coup, à partir de 2010, y a une montée de la protestation, et sous la pression populaire, les quotas sont abolis, puis sont restitués à la suite d'un recours devant la Cour suprême par les fameux petits-enfants de combattants de la libération, ce qui a amené le départ du juillet sanglant. Alors, une petite précision linguistique, lors de ces manifestations, la présidente Hasina qualifiera les manifestants de « Rajakar ». Je suis désolé pour la prononciation.
Ouais. Vas-y, on ne sait pas parler, nous, donc vas-y, si tu peux.
Rajakar.
Ouais, donc c'est quoi?
Eh bien, en fait, dans l'histoire très sanglante du Bangladesh, parce qu'en fait, le Bangladesh, je ne sais pas si vous le savez, mais avant, ça appartenait au Pakistan.
Fait.
En fait, lors de la partition des Indes en 47 ou 49, je ne sais plus.
48.
Ah bah, c'était entre les deux. On a séparé, du coup, d'un côté les Indes musulmanes, de l'autre côté les Indes hindous. Et du coup, il y avait le Pakistan qui était un pays coupé en deux avec l'Inde au milieu et une partie occidentale qui deviendra le Pakistan tel qu'on le connaît actuellement et une partie orientale qui deviendra le Bangladesh.
C'est ça.
En 71, l'armée pakistanaise perpétue un génocide sur sa partie orientale à l'aide de collabos, les fameux Rajakar, qui en fait aidaient les militaires pakistanais à pouvoir débusquer du coup les combattants de la résistance et qui incitaient les troupes à violer, à détruire, à affamer, etc. Et tout. Donc en gros, quand on traite quelqu'un de Rajakar, c'est comme si on le traitait de collabo en France.
Ok, d'accord. Non, je savais pas.
Voilà. Sous prétexte que, du coup, soi-disant, comme le parti au pouvoir est un parti qui est issu du mouvement de libération, les opposants au pouvoir seraient du coup des collabos qui seraient contre le mouvement de libération.
Et donc des Rajakar.
Rajakar.
Oh là, je vais noter ça, moi. Je vais insulter des gens là. Dans la prochaine émission, d'ailleurs. J'ai deux, trois noms là en tête.
Alors,
j'ai quelques Rajakar en vie.
On a tous en stock.
Oui, on en a.
C'est un dérapage qui lui a coûté plutôt cher, du coup, à Hasina, parce que le 21 juillet, la Cour suprême a redéfini les quotas pour garantir un accès aux mérites et aux minorités.
Oui, bien sûr.
De genre, d'ailleurs, ce qui est assez exceptionnel pour un pays asiatique, qui a effectivement garanti, du coup, une place pour les minorités sexuelles dans des postes de fonctionnaires au sein de sa constitution. Il y a quand même 5% des combattants de la liberté et de leurs enfants qui sont toujours admis. Mais voilà. La particularité du Bangladesh, c'est que c'est un régime au capitalisme décomplexé.
Oui.
Le pays a été transformé sous le règne de Sheikh Hasina en une véritable usine monde. En fait, c'est devenu l'usine textile de la planète pour la plus grande partie. Enfin voilà, si jamais vous avez des événements, ils viennent ou bien du Kazakhstan ou bien du Bangladesh.
Ouais. Vous vous rappelez de ce scandale où un immeuble avait...
Et c'était écroulé, ouais. Oui.
Et c'était quoi? Et on va les citer, c'est Benetton.
Ouais, c'est ça.
Si vous voulez désambienter un navire de guerre, bah, c'est là-bas qu'il faut aller.
C'est là-bas qu'il faut aller aussi, ouais.
Parce qu'ils travaillent pieds nus, voilà, sans aucune règle.
Sous son règne, on a vu la création des zones économiques privées où la syndicalisation est interdite, où les droits du travail sont relativement allégés, on va pour le dire gentiment. 30% de la richesse produite est contrôlée par 5% de la population, ce qui a entraîné à partir de 2022 des grèves. Et voilà, tout cela dans le secteur notamment du thé. Tout cela profite bien évidemment aux partis islamistes.
Oui, bien sûr, mais c'est ça le truc.
Qui du coup font œuvre de contestation vis-à-vis du gouvernement. Mmh. Et ça, bien évidemment, ça a arrangé les affaires du gouvernement Hasina, puisque à partir de 2001, du coup, la guerre globale contre le terrorisme islamiste a amené à
Et là, je ne peux pas t'aider. Alors,
à combattre ces mouvements, etc. Là. Putain, je l'ai. Ah merde. Ouais. Bon, tant pis.
Pas de promo ici, monsieur.
Tu nous le diras le mois prochain.
Oui, voilà.
Enfin bref, répression féroce des mouvements islamiques qui commençaient à gagner les campagnes. Oui. La position géographique du pays est quand même très particulière parce que c'est un pays qui est entièrement entouré par l'Inde, sauf au sud où du coup elle donne sur l'océan Indien. Et du coup, Modi et la Ligue Awani, donc le parti de Sheikh Hasina, travaillent main dans la main pour développer les partenariats commerciaux entre les deux pays. Il y a énormément d'accords économiques avec l'Inde, qui est le principal, ce qui est le voisin direct et à la fois un grand marché et aussi un grand producteur. Donc du coup, l'économie bangladaise est tournée vers ce géant-là. Mais les tensions au niveau des populations n'arrêtent pas de monter. Pourquoi ? Parce que les Indiens voient les Bangladais comme étant des potentiels immigrés illégaux qui viendraient voler leur travail, comme dans tous les pays du monde. Dès qu'il y a des immigrés, c'est toujours la même litanie.
Allez, une loi ! Allez !
Et à l'inverse, les Bengalais voient les Indiens comme étant des islamophobes qui, effectivement, méprisent l'islamisme, enfin l'islam, l'islam de façon générale.
Ah oui, non, oui.
Les Indiens.
Oui, bien sûr. Oui.
Et s'attaquent à leur propre minorité musulmane, ce qui passe très mal du coup dans un pays qui a grande majorité musulmane. Surtout, ça a été aggravé parce que en juin 2024, Hasani autorise les Indiens à utiliser gratuitement le réseau ferroviaire bengalais. Voilà. Depuis le départ d'Hasani, le gouvernement provisoire.
Tu dis Hasani depuis tout à l'heure, c'est Hasina.
Hasina.
Sheikh Hasina.
Ah oui, c'est Hasina. Effectivement, j'ai noté Hasani dans mon truc, mais c'est Hasina.
Bien sûr.
Donc le gouvernement, depuis le départ d'Hasina, le gouvernement provisoire est dirigé par le prix Nobel de la paix Mohamed Younes. Je crois que c'est Younes.
Younes,
c'est ça.
Oui, prix Nobel de la paix. Et,
prix Nobel de la
grand
paix.
Grand économiste, il a eu plein, j'ai regardé là, plein d'articles dans le Monde Diplo. Il était en France d'ailleurs, il était réfugié en France. Vas-y, dis, fini.
Donc c'est une orientation qui est très néolibérale, même si jamais il n'y a pas encore de mesures qui ont été prises à ce niveau-là. Et même si jamais le gouvernement intègre des membres de la société civile qui se sont... qui ont réussi à acquérir une certaine notoriété pendant les manifestations. Bah, quid de la gauche, du coup, on se demande, parce qu'elle paraît un petit peu absente de ces trucs-là, mais en fait, le Parti communiste bengalais et le Parti des travailleurs, en fait, ont été compromis dans des alliances avec le pouvoir lorsque la Ligue Awari, je crois que c'est Awari, c'est ça, était au pouvoir. Ils ont défendu leurs membres et ont participé à la corruption générale du système, donc du coup, ils sont complètement exclus de la vie politique pour le moment dans le cadre du gouvernement provisoire. Et les manifestations continuent, notamment récemment c'était les pousse-pousse, les médecins et les étudiants qui du coup réclament à nouveau l'amélioration de leurs conditions de travail et la venue vers un Bangladesh qui soit plus épanouissant.
Merci à toi d'avoir tenu le temps. Deux choses à dire. Allez regarder sur les réseaux sociaux, il y a des images très parlantes des étudiants qui ont parlé un peu quand ils ont pris le palais de Sheikh Hasina. ils étaient 150 000 dans la piscine. Ah non, il y a des images. Ils ont tout piqué dans. Deuxième chose, Cheikh Hasina, elle a fui vers l'Inde. Mm-hmm. Ce qui fait que Younous, qui démarre en politique, il a du mal là, avec l'Inde. Ils ont lancé, il y a une semaine à peu près, un mandat de, comment ils appellent ça, d'extradition. Mm-hmm. Voilà, mais qui risque de ne pas passer parce que, effectivement, comme tu le disais, Modi et son gouvernement en Inde sont plutôt proches de Cheikh Hasina, même malgré la différence culturelle, religieuse et tout ça. Pour la fin de l'émission, juste après un jingle, je propose qu'on passe la parole à... Hein, on va essayer de... Comment on dit ça en bon français? De dépuceler ce jeune homme.
Ah bah toi.
Ah, poil.
Non mais attends, faut pas... Attends. Il y avait un jingle, les gens.
Ah bah ton rompu avec Hasan.
Il vaut mieux le jingle. C'est
vrai. Allez. Allons-y. C'est ouais. C'est quoi le
alors le nom de l'article, c'est imputation mensongère d'antisémitisme, l'art de la diffamation politique.
Alors vas-y, en ce moment il y a que ça. Hein.
Ouais.
Bon, je sais pas si vous avez entendu BHL parler de Villepin et Mélenchon là. C'était dimanche. Où il dit clairement quoi qu'ils sont antisémites et alors, ils portent pas plainte ces gens. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Villepin était très énervé. Il a été invité 2 heures après, mais Mélenchon dit qu'il ne portera pas plainte. Mais si, il faut porter plainte contre ces trucs-là.
Surtout qu'il les gagne, ces procès en diffamation. Donc,
ben oui. Donc l'article dit...
Justement, j'y viens. D'ailleurs, vu que c'est mon premier article, après on fait un débrief. Hein, vous me dites si ça ne va pas. Hein. Ok. Alors, donc, cet article, il est rédigé par Serge Halimi et Pierre Rimbert. Il ne s'agit pas de commenter les critiques adressées à LFI, hein, la France Insoumise, mais bien de parler de la volonté politique et médiatique de détruire LFI. L'article commence par revenir sur les élections législatives, hein, et notamment la dissonance entre le vote des Français et Françaises et la représentation politique au sein du gouvernement. L'article explique que cela a été rendu possible par les travaux des corps politiques et médiatiques à surcharger l'espace public de mensonges à l'égard de LFI et de leur leader Jean-Luc Mélenchon. Ici on cite et on revient sur les méthodes des médias pour démontrer que le nouveau Front Populaire et surtout LFI seraient antisémites. L'accumulation d'exemples montre la volonté médiatique, alors notamment des médias conservateurs et de droite, hein, dans l'article sont cités Figaro, BFM, Le Point, à imputer l'antisémitisme aux insoumis, allant jusqu'à proposer la dissolution du parti pour régler le problème de l'antisémitisme en France. Bon, c'est un peu délirant, mais bref. L'article pointe la saturation de l'espace public par le thème LFI permettant aux formations politiques du centre et de la droite de garder le silence sur les massacres à Gaza, permettant aussi d'en minorer les effets. Parce qu'en rendant infréquentable le premier parti d'opposition de gauche, le gouvernement et les médias ont proscrit du débat public la critique d'Israël et de sa politique. L'article revient ensuite sur un lobbying pro-israélien qui a débuté dès 2016, condamnant toute critique d'Israël aux soupçons d'antisémitisme. Donc comment un mensonge aussi gros a pu passer en fait? Parce que oui, hein, l'article rappelle aussi que LFI n'a jamais été condamné pour antisémitisme. Les détracteurs de cette position savent pertinemment que ni Jean-Luc Mélenchon ni la France Insoumise ne sont pas antisémites. L'article parle d'une fake news d'État reprise par les médias pour un seul objectif, la diffamation de la gauche. Pour cela, tous les moyens sont possibles. Extrapolation, raccourcis, interprétation d'intentions cachées. Enfin voilà, il y a plein d'exemples qui sont donnés dans cet article. Hein. Il parle du terme campé qui a été utilisé par Jean-Luc Mélenchon et qui a été extrapolé par tous les médias. Qualifiant les discours de Jean-Luc Mélenchon s'inscrivant dans une longue tradition d'antisémitisme. Enfin voilà. Pendant ce temps-là, la France Insoumise propose dans son programme des mesures destinées à combattre l'antisémitisme, a obtenu la condamnation de personnalités de droite et l'ayant accusé justement pour des procès en diffamation, et surtout cela permet en attendant, et il continue les massacres à Gaza dans l'indifférence totale.
Ouais, bien sûr. Et oui, à lire, hein, la diffamation politique, imputation mensongère d'antisémitisme. Et je disais, on est vraiment en plein là-dedans en ce moment. Dès qu'on dit quelque chose, on est antisémite. À commencer par Netanyahou, le premier ministre israélien. Dès qu'on dit que sa guerre est une sauvagerie, une saloperie, Il dit, vous êtes antisémite. Donc voilà.
J'ai appris que Biden avait prévenu Netanyahou de ne pas répondre après l'attaque des Palestiniens en disant que de toute façon il se mettrait le monde à dos. Oui. Il a dit que l'Amérique avait fait la même erreur après et l'Amérique s'était mis le monde à dos.
Oui. Ouais,
voilà. Et bon, malheureusement.
Évidemment.
Netanyahou n'a pas
ce que vient de présenter Steven, c'est un peu aussi l'objet du manuel dont je parlais tout à l'heure, hein, sur les préconçus qu'on veut bien nous faire passer. Et donc il y a notamment plein de choses. Et dans ce diplôme, il y a un article aussi de Benoît Bréville, l'histoire face aux manipulateurs, démontre bien que tout de suite après la guerre, on était reconnaissant aux Russes d'avoir bien occupé quand même les nazis à l'est de l'Europe pendant qu'on pouvait débarquer. Et maintenant, quand on en parle, alors effectivement, par les temps qui courent, Poutine n'est pas le bienvenu, mais quand même on oublie tous les Russes qui sont morts, alors qui ont fait plein de choses derrière, hein, moins noble évidemment, mais on oublie quand même de dire que si la France notamment a été libérée du joug nazi, c'est aussi parce que les Russes les occupaient à l'est de l'Europe.
Il y a d'ailleurs le général Patton qui a cette super phrase, il expliquait que la Seconde Guerre mondiale a été gagnée par des avions américains, des renseignements anglais et le sang des Russes.
Oui.
C'est pas faux. Tout de suite après la guerre, on n'oubliait pas de. Si on interrogeait la population française.
Oui, c'était 52%, 57% des Français.
Et maintenant, on a complètement oublié, enfin, on nous fait oublier depuis les années 80 déjà, que finalement, on remercie maintenant que les Occidentaux, les Anglais, les Canadiens, les Américains, bien sûr.
Non, mais je crois que le rôle des Russes est prépondérant, mais il ne faut pas oublier non plus qu'au début, ils s'étaient accoquinés avec les nazis.
Oui, bien sûr.
C'est parce qu'ils ont été attaqués qu'ils se sont mis dans le camp des.
Je ne sais pas si à côté Marie-Pierre est toujours là, si elle veut venir en tant que germaniste. Elle a son petit point de vue sur les idées préconçues et notamment l'arrivée de Hitler au pouvoir. Elle peut peut-être venir nous en parler une minute, si elle veut bien.
Et nous accueillons donc
Marie-Pierre.
Bienvenue, vous allez vous, oui.
Sur les idées, on a déjà eu à l'occasion d'en parler tous les deux, sur l'arrivée de Hitler au pouvoir.
Elle n'a pas de casque, donc elle ne m'entend pas.
Il y en a, là.
Mais malheureusement, ça va être très rapide. Parce que 3 minutes, c'est possible.
Je pense que on a tout de suite la conséquence des traités de Versailles, hein, ça c'est clair.
Absolument.
Et la grande misère qui a suivi la défaite de l'Allemagne, ça c'est la première chose. Le fond de l'antisémitisme est quelque chose qui a été exploité, mais qui était présent en France, enfin qui était partout en Europe. Hein, c'était pas uniquement le peuple allemand qui était antisémite, mais ça a servi de terreau, comme très souvent, on désigne un responsable.
Voilà. Et là, il était un bouc émissaire.
Oui, ça c'est la première chose. J'avais lu un article du Monde diplomatique au mois d'août disant que l'arrivée d'Hitler, qu'il était faux de dire que Hitler était arrivé légalement au pouvoir.
Oui, bien sûr.
Là, moi, j'ai un peu de doute quand même. Il y a eu des élections.
Il a gagné.
Il est arrivé au pouvoir légalement. Certes, poussé par les grands groupes industriels, ça, c'est le rôle est certain. Mais il y a quand même eu un vote.
Oui, est-ce qu'on réduit la démocratie au vote? Parce que j'ai lu cet article, c'est tout ce qui s'est passé avant. Hitler a installé la peur. Il y a eu pas mal de gens assassinés, forcément.
Voilà.
Ils ont forcé un vote, donc voilà.
C'est ça le problème. Après, c'était dans un terrain de pseudo-guerre civile, à ce moment-là, depuis la crise de 1929, avec des combats de rue entre le Parti communiste, qui était très fort à l'époque, et puis les troupes nazies. Et c'est vrai que ça a créé une panique et une angoisse générale, avec un besoin d'ordre, de tranquillité. Et l'idée que Hitler allait remettre le pays sur pied, crainte aussi du communisme, hein, c'est exact. Après, on a souvent pensé que s'il y avait eu à ce moment-là une... Enfin, on ne fait pas l'histoire avec des si, mais On peut regretter qu'il n'y ait pas eu une clairvoyance politique à ce moment-là entre les communistes et les socialistes, qui étaient majoritaires, et qui auraient pu résister efficacement. J'hésite un peu à dire ça, hein, parce que c'est pas de l'histoire. C'est,
oui. Mais d'ailleurs, les nazis et Hitler apparaissaient sympathiques au début, notamment à la Grande-Bretagne, à Churchill.
Attends, je peux prendre la parole une seconde, parce qu'on va décrocher à Tours. Il y a une émission juste derrière qui s'appelle Les Improgrammables. Si vous nous écoutez à Tours, merci de votre fidélité, encore cette heure-ci, et les Improgrammables, plus du jazz à 21h. Et pour Orléans, on va continuer un tout petit peu.
Il y a Raiden, je suppose.
Oui, il y a juste Raiden derrière. Oui.
Ils vont nous maudire.
Voilà. Parfait. Oui, donc, tu disais.
Je disais que finalement, les nazis, hein, dans les années 35 à 40, ils étaient plutôt. Finalement, on préférait les nazis que les communistes. Pour ce qui est de la Grande-Bretagne.
Aux États-Unis aussi.
Les États-Unis également.
Ils sont partis pro-nazis. Hein. Mmh.